T'as pas des drôles de dents aujourd'hui?
Non, non, moi je suis un loup-garou.
Ah oui, c'est vrai.
Pilosité, bon, pilosité.
Je ferai le vampire. Darkness falls across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. Eh bien, bonjour, chers spectateurs et auditeurs de Arrête ton cinéma, numéro 10. Bonjour Hugo. Bonjour Gwen.
Bon, ben nous ne dirons pas bonjour à Naël, parce que Naël, pour les besoins de l'émission, est allée en Transylvanie et comme en Palombie, eh ben ma foi, elle a disparu, corps et bien. En 20.
J'espère qu'elle n'a pas été mordue.
Ça oui, j'espère aussi. Aujourd'hui, nous parlerons des loups-garous et des vampires dans le cinéma. Alors nous allons diviser un peu l'émission en trois parties, c'est-à-dire la première partie, les loups-garous et lycanthropie, la deuxième partie, les vampires, et une synthèse des deux en troisième partie.
Oui, on a fait simple.
On a fait très simple, oui, parce qu'il faut quand même le dire, les films de vampires et de loups-garous, c'est quand même beaucoup représenté dans le cinéma, depuis très tôt d'ailleurs. Donc
oui.
Effectivement, oui, parce que si je me rappelle bien, le premier film sur les loups-garous, The Werewolf, de Henry McRae, est de 1913, alors que le premier film de vampire est de 1912. Ça revient de loin, comme on dit. Hein.
De très loin, même.
Donc voilà. Alors, le loup-garou. Qu'est-ce qu'un loup-garou?
Alors, un lycanthrope, plus connu en français sous le nom de loup-garou, et dans les mythologies...
Les mythologies peut-être?
Oui, merci mon petit. Les légendes et les folklores principalement issus de la civilisation européenne, un humain qui a la capacité de se transformer partiellement ou complètement en loup ou en créature anthropomorphe proche du loup.
Tout à fait.
J'explique un peu plus la transformation, on n'est pas dans Bioman là. Hein.
Je suis force jaune devant, marron derrière.
Cette transformation peut être due à plusieurs causes, comme une malédiction ou un rituel volontaire, et plus récemment, la morsure d'un loup ou d'un autre lycanthrope. Elle se déclenche généralement durant la nuit et à chaque pleine lune, condamnant le lycanthrope à errer sous forme de loup jusqu'au matin.
Au matin.
Au matin.
Moi, je voulais rajouter qu'effectivement, le loup, dans la mythologie, surtout européenne, c'est quand même un animal phare, parce qu'il faut rappeler, dans la mythologie grecque, que la mère de Artémis et d'Apollon était Leto et qu'elle elle avait été changée en louve par Zeus et pour la protéger des colères et des foudres de Héra. Et puis on la retrouve aussi chez les Romains, puisqu'elle était la mère de Rémus et Romulus, et que c'était les fondateurs de Rome.
Je croyais que c'était à partir du 5e siècle, avant JC, qu'on en avait entendu parler par Hérodote.
Non mais là je te parle du loup, hein. Je te parle pas spécifiquement de la lycanthropie.
D'accord.
Non mais parce que ça y fait partie, parce que dans la mythologie germano-scandinave, t'as le Fenrir, le destructeur, qui va à la fin, vers ce qu'appellerait Richard Wagner, le crépuscule des dieux, dévorer Odin et ainsi détruire l'univers des dieux d'Asgard, cher à notre camarade Thor des Avengers.
Tout à fait.
Voilà.
Et à son frère.
Voilà. Et au plus proche de nous, et en France, on a eu la bête du Gévaudan qui a sévi du 1er juillet 1764 et qui s'achève le 19 juin 1767. Et il y aura eu officiellement 99 victimes, sans compter les blessés. Et qu'on retrouve un peu dans le film Le Pacte des Loups de Christophe Gans en 2001. qui est, moi je le trouve, un film assez proche de la réalité et en même temps carrément à l'opposé, parce que là carrément on se trouve dans des trucs de kung-fu et tout. Donc voilà, mais pour en revenir à notre émission, vous en avez parlé parce que justement on avait craint à une époque que c'était un loup-garou puisqu'il s'attaquait qu'aux jeunes filles et aux enfants et jamais aux hommes. Donc il y avait eu quand même des suspicions.
Je dirais que chaque région a sa légende. Parce que oui, je crois qu'en Bretagne il s'appelle pas pareil, mais c'est quand même un loup-garou.
Voilà,
en Auvergne aussi il y a des histoires.
Oui, voilà. Et donc forcément quelque part à la création du cinéma, effectivement ce personnage du loup-garou est apparu. Alors au début, c'est vrai que c'est des films muets, donc le fameux Werewolf de Henry McRae en 1913. Et après, on a eu tout un florilège de films, les Hurlements, qui a eu carrément 8 épisodes. Alors là, c'est un florilège de bêtes assoiffées de sang qui dévorent des gens.
Je dirais même c'est un florilège de nazeries.
Ouais, de ce qu'on appelle des navets, ce qui est quand même assez piteux pour un dévoreur de viande. Après, il y a quelques films qui ont fait quand même exception.
Moi j'en ai vu en premier, c'est en 1955, ça s'appelle Le Loup-garou. Pareil que c'est un très très bon film. Bon, le synopsis, c'est un scientifique qui cherche un remède aux maladies causées par les radiations, transforme un homme en loup-garou. Pareil que c'est un très grand classique. Ensuite, Wolfen, et pas Wolfie, hein, qui est autre chose, c'est 1981 de Michael Wollite avec Albert Finney et Diane Venora. Donc ça se passe à New York, c'est un policier new-yorkais qui enquête sur une série de meurtres inexpliqués qui semblent avoir été commis par des animaux. Pareil que c'est une œuvre à découvrir, un film qui se déguste pour le message qu'il donne et qui était à l'époque visionnaire.
Moi par contre j'aimerais bien citer, parce que au fil des émissions quand même d'Arrête ton cinéma, j'aimerais bien compter le nombre de films qui se passent à New York, parce qu'il y en a un florilège, c'est quand même monstrueux.
Bah, si tu veux, là, tiens, regarde, j'en ai un autre pour te contrer, bien sûr. Je suis là pour ça. Le Loup-garou de Londres, de 1981 aussi, de John Landis. Là, c'est deux jeunes Américains en vacances, s'égarent dans une région déserte de l'Angleterre. Ça fait peur, ça. Hein. Il se passe souvent des trucs là-haut en Angleterre. Et ils sont donc attaqués par une bête étrange. Enfin, ce film, le début est très en longueur et la fin est excellente. Et surtout, pour l'époque, le loup-garou est très, très bien fait.
Voilà.
Je crois que c'est même la plus belle transformation d'un homme en loup-garou.
Oui, moi je trouve que les vampires ont toujours un côté très esthétique, mais alors par contre les loups-garous, excusez-moi, les transformations des fois dans certains films c'est moche. Et d'ailleurs je rebondis sur ton loup-garou de Londres, puisqu'il y a aussi le loup-garou de Washington qui est sorti en 1973 et le loup-garou de Paris qui est sorti en 97. Donc voilà,
oui,
le loup-garou est surtout dans les villes donc.
Moi les films que j'ai cités ils sont regardables.
Oui,
je veux dire
tout
que
tout
le scénario
fait
se tient, parce qu'après il y a beaucoup de films.
Voilà,
où,
ouais.
Oh là là.
Oui, non, mais je vous dis, c'est comme les Hurlements. Là, j'ai vu, parce qu'il y a quand même une sacrée liste. Et effectivement, il y en a pour plus de trois quarts, on les connaît pas. Hein.
Donc, pour faire court aussi, il y a une trilogie qui s'appelle Ginger Snaps. Mm-hmm. Je sais pas si ça dit quelque chose, ça, non ?
Du tout.
Ça a commencé en 2002, pardon, avec John Fawcett. Et les deux dernières, je crois, elles étaient en 2007. Donc, je dirais que c'est regardable. Le scénario est potable. Bon, il y a un manque de rythme. Les actrices sont très bien, ce qui paraît. J'ai pas vu, moi, pour vous dire.
J'aime bien les regardables.
Donc, mais le souci, je dirais que c'est un film qui vieillit mal, quoi.
Moi, j'avais un film qui est sorti en 2007, Skinwalker, de James Isaac. C'est l'histoire de deux gangs de loups-garous qui se battent. Et en fait, il y a un des groupes de loups-garous qui protège un enfant, parce qu'il est évidemment l'enfant d'une prophétie qui fera que, grâce à ça, les loups-garous seront sauvés. Donc voilà, alors, il est regardable, mais là ça aussi, c'est pas des films qui cassent des barres.
Donc moi je pense que le mieux c'est Wolf.
Ouais, tout à fait.
1994,
oui.
De Mack Nichols avec Michelle Pfeiffer
et Jack Nicholson.
Tout à fait. Donc là c'est le directeur de collection d'une maison d'édition prestigieuse, Will Sandell, joué donc par Nicholson, qui est menacé de licenciement. Sa situation personnelle n'est guère plus brillante puisque sa femme le trompe.
Voilà.
C'est génial comme
scénario. Avec d'ailleurs celui qui le vit, si je m'en rappelle bien.
Oui. Donc ainsi, quand un soir de pleine lune, il se fait mordre par un loup qu'il a renversé en voiture, Randall s'empresse d'oublier l'incident. Pourtant, il ressent peu après les prémices d'une incroyable métamorphose.
Et ben moi je trouve que justement c'est ça qui est bien dans ce film, parce que après souvent, mais ça c'est les films un peu plus modernes, hein, c'est que il y a souvent cette histoire, c'est avant tout c'est une bête sauvage, parce que c'est ça quand même le loup-garou, c'est-à-dire c'est les natures sauvages de l'homme transformées en bête à tuer. Et là dans ce film, je veux dire, on voit toute cette puissance qui monte en Jack Nicholson, et qui est d'ailleurs très bien pour ce personnage, qu'il incarne à merveille. Mais tu vois, ce truc où on entend plus loin, on voit mieux, où il sent qu'il y a une puissance, oui. Où il devient carrément plus masculin, parce qu'il a tendance, si je me rappelle bien, au début à bien s'écraser.
Et tout, et
oui, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on cachait. C'est d'ailleurs comme ça qu'on reconnaissait d'ailleurs les loups-garous, c'est-à-dire qu'ils avaient, comme moi,
les
sourcils épais et d'un seul trait. Donc Emmanuel Chin est un loup-garou, messieurs, dames. Donc voilà, et c'est cette montée en puissance, c'est-à-dire que d'un coup, on sent dans le personnage de Nicholson la sauvagerie monter, quoi, et qu'il l'habite parfaitement. C'est ça aussi. C'est moi, parce que après, dans d'autres films, c'est carrément c'est juste une excellente excuse pour des bains de sang, quoi. Je veux dire, voilà, le mec il se transforme, il est mordu, pof, il dévore, et évidemment tout le monde va essayer de le descendre et on
c'est
arrive.
C'est pas assez ancré sur la psychologie du personnage. Ouais, mais... C'est lutte pour justement ne pas devenir un loup-garou. Et
oui, mais c'est justement ça. C'est pour ça que j'y reviens. C'est justement plus on va dans les trucs modernes, c'est-à-dire plus on tente d'expliquer la psychologie du personnage et de cette transformation, puisque comme on l'a fait sur l'émission des super-héros, c'est-à-dire qu'à un moment, le mec, il est investi d'un pouvoir et que forcément, il se retrouve à se transformer. Et grâce à ça, il a, pendant un moment, de se dire, bah, ça y est, je deviens un autre, je deviens plus puissant, plus fort. Mais il y a forcément, et comme partout, une contrepartie
à tout ça. Oui, c'est sûr, parce que tu prends la série que tu citais l'autre fois, Hurlement, c'est vraiment le film d'horreur purement sanglant.
C'est ça, Oui, mais ça a été aussi le cas, et on verra plus tard pour les vampires aussi.
Oui. Donc voilà. On peut encore parler d'un film de loup-garou qui s'appelle Wolfman, en 2010, de Joe Johnston. Il y a Benicio del Toro, d'Anthony
Hopkins.
Voilà,
tout à fait, oui.
Emily Blunt.
Voilà, c'est ça, ouais.
C'est ça, il est inspiré du classique de 1941, parce que Wolfman était déjà sorti en 1941.
Et ça se passe en Angleterre, dans les contrées sauvages du Blackmoor. Oui.
Donc ce film revisite le mythe de l'homme maudit en revenant à ses origines légendaires. Un aristocrate torturé par la disparition de son frère, forcé à revenir au domaine familial, oui. Il se contraint de se rapprocher de son père, Talbot, de son nom, se lance à la recherche de son frère et se découvre une terrible destinée.
Voilà, tout à fait. Voilà. Il y a un film un peu bas de gamme, mais...
Oui, vas-y. Vas-y,
le...
Non, mais c'est juste encore pour dire quelques mots là-dessus avant que Gwen. Alors là, il a sorti de Hello, il pédale aujourd'hui. Hein. C'est l'effet Tour de France ou quoi ? C'est pour juste dire encore, il a eu l'Oscar du meilleur maquillage en 2011, que c'est le même scénariste que Sleepy Hollow. Donc on peut dire dans ce film, donc, les effets spéciaux et le style victorien parfaitement reconstitués, les personnages peu nombreux, mais cachent beaucoup de secrets, donc l'histoire est prenante. Quoi.
Voilà, et Anthony Hopkins est, comme d'habitude, parfait.
Et on peut même dire, à la fin du film, il y a un clin d'œil qui est fait au... de 1941, la Wolfman, c'est la réplique exacte de la canne au pommeau en forme d'une tête de loup, parce qu'on se souviendra, c'est la grande poursuite qu'il y a sur les toits de Londres, et aussi l'attaque foudroyante dans le camp du Gitan, par la bête.
Comme d'habitude aussi.
Donc moi je trouvais ça très très bien, très très bien, dire que c'est un bon divertissement, mais après je trouve que la fin, comme d'habitude, est bâclée dans ces films.
Oui, mais justement là, je rebondis sur ça. Donc il y a le.
Tu aimes rebondir.
Voilà, oui, je suis très rebondissant aujourd'hui. donc parce que là, le dernier sorti qui est donc sorti en 2011 de Catherine Hardwicke, le Chaperon Rouge, qui revisite la légende donc du Chaperon Rouge et donc forcément du loup. En fait, c'est pas tellement le conte tel qu'on le connaît, mais effectivement, il y a quand même une histoire de loup-garou. Et moi, je trouve que la fin est pas mal pour une fois, quoi. Un peu heureuse. Et d'ailleurs, si je me rappelle bien, Catherine Hardwicke avait fait un autre film, le premier film de Twilight. Je voulais aussi rappeler au début de l'émission, tu nous parles qu'il y en a certains qui décident soit de transformer, soit ils sont transformés contre leur gré.
Oui.
Et effectivement, on le voit.
La volonté première. Hein,
oui, mais
dans les légendes.
Voilà, c'est ça.
Que
oui,
j'ai
non,
lu,
mais
moi.
Justement. Moi, ça me fait référence, et là, c'est pour certains aficionados, comme j'aime à le dire, c'est dans le Harry Potter, numéro 3, le prisonnier d'Azkaban. Ouais. Puisqu'effectivement, quand même, il y a le fameux parrain de Harry Potter, Sirius Black, qui est un animagus, c'est-à-dire qu'il se transforme à sa volonté. Et c'est plutôt un chien noir qu'un loup. Mmh. Par contre, le professeur Lupin, lui qui a été mordu par le fameux Fenrir Greyback, qui est un mange-mort, lui se transforme en loup-garou contre sa volonté. Et à un moment même, il attaque son meilleur ami, quoi. Donc voilà, c'est
bien joué, monsieur.
Donc voilà, c'était aussi ce petit clin d'œil à l'univers de Rollins et de Harry Potter, quand même. Puisque là, on parle spécialement de loup-garou, alors que très curieusement, il n'y a pas de vampire dans le Harry Potter.
Je suis assez étonné que tu aies oublié ton film favori.
Lequel ?
Avec Michelle Pfeiffer, de 1985.
Le Lady Hawk ?
Eh oui.
Oui, aussi, ouais. Oui, mais en même temps, alors, j'ai oublié et j'ai pas oublié. Parce que, ok. C'est un loup, mais c'est pas tellement un loup-garou. Hein. Je veux dire, lui, il se transforme en loup. Elle se transforme
en faucon la journée.
Mais c'est pas vraiment un loup-garou.
D'accord.
Je veux dire, effectivement, il est sous forme de loup et c'est un loup. Effectivement, c'est un humain transformé en loup, mais il reste quand même avant tout un loup. On n'est pas la bestiole qui se balade à deux pattes et qui mord et qui dit chéquette.
Tu as tout dit ?
Oui, enfin, en tout cas pour les loups-garous, moi, j'ai pas beaucoup plus d'informations.
On va dire que la filmographie est quand même moins riche que chez nos amis les vampires.
Ben, disons que moi, je trouve que c'est intrinsèquement lié.
T'as pas dit un gros mot là ?
Non, intrinsèquement lié à la bestiole, parce que c'est vrai que c'est quand même plus facile de faire bosser un endimanché avec des grandes dents que de faire parler ou d'animer des sentiments chez une grosse bête poilue, quoi.
Oui, c'est ce que j'avais lu dans les premiers films de loup-garou. En fait, vraiment, le maquillage était vraiment très sommaire parce qu'il disait que l'acteur ne voulait pas supporter ça toute la journée,
voilà.
Et qu'il n'y a pas les moyens techniques d'aujourd'hui pour réaliser un costume. Ou...
Parce qu'à l'époque, effectivement, c'était quand même beaucoup de maquillage et qui pouvait durer longtemps. Maintenant, on arrive à des trucs d'animation grâce à l'informatique, et donc forcément, bah, c'est tout de suite déjà plus simple, quoi.
D'accord.
Donc voilà, et ben après les loups-garous.
Nous allons nous intéresser au monde de Dracula. Dracula est un roman de l'écrivain irlandais Bram Stoker, publié en 1897. Il raconte l'histoire d'un vampire, c'est-à-dire un être immortel qui se repaît du sang des vivants, dont le nom s'inspire du surnom d'un personnage historique, Vlad l'Empaleur, prince de Valachie au XVe siècle. Valachie, le thème du vampire apparaît dès 1819 en Angleterre, en pleine mode du roman gothique, et sera exploité par de nombreux auteurs au cours du siècle, comme Charles Nodier et Théophile Gautier en France. L'apport décisif de Bram Stoker à l'extrême fin du XIXe siècle est d'avoir fait du conte, au-delà de la créature au pouvoir surnaturel, un être humain damné, un mort-vivant qui suscite la pitié en même temps que l'épouvante. Cette complexité du personnage de Dracula, renouvelée par des thèmes modernes, chers à la psychanalyse comme l'association d'Eros et de Thanatos, merci, du désir sexuel et de la mort, ou le questionnement des limites entre la bête et l'homme, entre la vie et la mort, ou entre le bien et le mal, en feront un mythe moderne que le cinéma contribuera à amplifier.
Effectivement, tu parlais du prince Vlad IV de Valachie. La Valachie se retrouve en Roumanie. Hein. C'est un petit territoire qui se trouve à côté de la Transylvanie et de la Moldavie, et qui est un personnage qui a vécu de 1430 à 1477 et qui mena contre l'Empire ottoman qui venait de s'emparer de Constantinople une lutte acharnée. Et puis je voulais aussi rappeler un autre personnage qui est un peu dans le quartier, qui est la fameuse comtesse Ezerbet Bathory, qui est née en 1560 et qui est issue d'une famille de sang royal, et dont le blason des Bathory était 3 dents de loup, un croissant de lune, un soleil en forme d'étoile à 6 pointes et le tout entouré d'un dragon qui se mord la queue. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que prince Vlad Tepes, donc Vlad l'Empaleur, était chevalier de l'ordre du dragon. Est-ce que c'est Dragon qui fait le fameux nom Dracula ? Et donc cette fameuse comtesse sanglante Ezerbet Bathory est connue pour avoir quand même saigné à blanc 600 jeunes filles.
Pour manger ?
Non, pas du tout, pour faire des bains de sang et pour ainsi se rajeunir. Parce qu'il y a le fameux épisode où, en fait, elle était quand même assez violente. Hein. C'était une région où, voilà, on aimait bien torturer les gens. Voilà.
Et ça a marché ?
Et en fait, à un moment, il y a une servante qui apparemment lui a tiré les cheveux en la brossant. Et elle a tapé, elle a reçu des gouttes de sang sur sa peau. Et c'est là qu'elle a vu que sa peau s'était tendue et qu'effectivement, elle retrouvait cette fameuse jeunesse.
Ah.
Et donc, voilà. Et donc, elle aurait fait la fameuse... Alors ça, c'est une légende. Est vrai, faux, on ne sait pas. La fameuse Vierge de Nuremberg, c'est-à-dire ce fameux sarcophage où on mettait les jeunes filles dedans avec des pointes et on recueillait le sang. Donc, voilà.
C'est
et
splendide.
En fait, voilà. Et en fait, elle a été condamnée à être emmurée vivante et elle a vécu 4 ans dans la solitude et l'obscurité. Et on dit que malgré ses 54 ans, sa beauté était inaltérée. Voilà. Alors, au niveau du cinéma, la première apparition d'un vampire sur le grand écran remonte à 1912, dans un film russe nommé Les secrets de la maison numéro 5. En fait, il est encore noyé parmi les ghouls et autres fantômes. Et puis en 1922, Murnau...
Friedrich,
voilà. Le pousse sur le devant de la scène dans son légendaire Nosferatu.
Un chef-d'œuvre.
Voilà, le personnage Max Schreck. Alors, est-ce que ça a à voir avec le fameux Schreck ?
Non, c'est pas pareil.
Et qui est proprement... monstrueux. Ensuite, à partir de...
Attendez, monsieur, il changea le nom et la localisation de l'intrigue parce qu'il voulait pas payer les droits d'auteur qu'il y avait sur le à la famille
de pour Bram Stoker.
Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a eu donc quelques pépins. Et donc même l'acteur Mark Schreck, appelé Comte Orlok dans le film, il était tellement persuasif que le bruit a couru qu'il s'agissait d'un véritable vampire.
Voilà, oui, bah c'est un peu comme le coup de Orson Welles qui avait dit l'invasion de la planète par des extraterrestres. À l'époque, le cinéma avait sa puissance. Donc voilà, et à partir de 1931, le vampire s'adoucit, il devient onirique chez Karl Dreyer, vampire, qui est adapté du fameux Carmilla de Sheridan Le Fenu, qui est un roman de 1872. Il devient élégant et rare chez Todd Browning avec l'inoubliable Bela Lugosi, qui a fait de nombreuses suites dans les années 30 et 40. Et évidemment, le fameux sourire séducteur, quasiment sexuel, de Christopher Lee, qui lui a tourné quand même 11 films sur les...
Juste un petit mot là, donc pour revenir
vas-y,
en 31 avec
juste pour lancer.
D'accord, Bela Lugosi, donc Dracula.
Ouais, tout à fait.
Donc il endosse le rôle 4 fois. Mm-hmm. Il donna une dimension, comme tu disais, érotique à Dracula au cinéma. Quoi. Et c'est en 1966, Lugosi fut enterré avec la cape de Dracula à la demande de sa femme.
Voilà, tout. Et d'ailleurs, on le voit parce qu'on en avait déjà parlé de ce fameux Bela Lugosi dans l'émission sur Tim Burton, puisqu'il y avait le fameux film Ed Wood et on voyait le personnage Bela Lugosi joué par John Landis. Et c'est vrai que là aussi, on retrouve tout un florilège de vampires qui reste quand même, je dirais pas une caricature, mais ça reste quand même figé. Le cap, les dents, la chauve-souris, quoi. On se détache pas tellement de la psychologie du personnage.
Oui, il faut attendre, je pense. En 92, le prince des ténèbres qui avait déserté les écrans revient avec Francis Ford Coppola, donc Dracula,
voilà.
Avec le rôle titre qui est Gary Oldman, avec Winona Ryder, Keanu Reeves et Anthony Hopkins. Je pense que le film est sans doute celui qui suit de plus près l'œuvre de Stoker, avec toutefois de nombreuses libertés, qui met en scène un être capable de sentiments dont les caractères tragiques le rapprochent des grands héros romantiques du 19e siècle.
Oui, bah, disons qu'on a le personnage intrinsèque de Dracula est carrément mis en second plan, et c'est l'histoire sentimentale. Parce qu'on voit que le comte Dracula, qui perd sa femme au début du film, tente de le retrouver via le personnage de Mina.
Enfin, qui perd sa femme due à la ruse des Turcs.
Oui, tout à fait.
Souffle tout le monde, moi, tu peux te sauver. Je te blesse de mata. Hasta y alege, lui de Mnazeu.
Ce que je voulais dire, c'est avant tout, c'est peut-être le film aussi qui a quand même fait ça, c'est le fameux entretien avec un vampire. Voilà, parce que je veux dire, tiré du roman d'Anne Rice, parce qu'à un moment, on monte effectivement le personnage de Louis, donc Brad Pitt, et qui est torturé. C'est-à-dire, effectivement, d'un côté, on a le personnage de Lestat, Tom Cruise, qui est véritablement ce vampire...
Que pour dire un petit peu l'histoire, c'est à San Francisco, Malois, un journaliste incrédule recueille les confidences d'un homme mystérieux, Louis, qui affirme être un vampire. Donc pendant plusieurs heures, il écoute le récit incroyable de sa vie, son pacte avec le vampire Lestat, son initiation, ses premières extases, l'ivresse du sang, puis ses doutes, ses déchirements, sa quête illusoire de la fraternité, ses affrontements avec la secte du théâtre des vampires,
tenu par Antonio Banderas,
et l'incurable solitude qui l'accompagne depuis des siècles.
Voilà, et puis le personnage aussi de Claudia, la petite fille. Mais c'est vrai que moi, je trouve que celui-là, il a été quand même un tournant essentiel dans le personnage du vampire. C'est-à-dire qu'à un moment, on voit un personnage qui souffre. Et c'est plus un personnage qui fait souffrir, mais c'est un personnage qui souffre de son immortalité et surtout de sa solitude.
Oui, donc là, on approche réellement le côté psychologique du personnage vampire. Quoi.
Voilà. Et c'est justement là, parce que par rapport au, effectivement, loup-garou, où là, par contre, excusez-moi, mais je veux dire, on peut, parce que un vampire, ça discute, ça parle, alors qu'un loup-garou, ça hurle.
En s'inspirant du roman culte d'Anna Rice, le réalisateur apporte une nouvelle vision de ces créatures mythiques. Il réussit un film extraordinaire et envoûtant. Tom Cruise est absolument étonnant.
Oui, tout à fait.
Mais
oui.
La PAM revient à Brad Pitt qui, par son interprétation unique, s'affirme comme le dernier héros romantique. Somptueux et spectaculaire, ce film marque le cinéma fantastique d'une empreinte indélébile.
Que celui-là, effectivement, le film de Neil Jordan et aussi de Francis Ford Coppola, pour moi, c'est quand même deux gros tournants du film du vampire.
Il faut aussi citer, puisqu'on est encore dans les chefs-d'œuvre, je pense, c'est Le Bal des Vampires de 1967 de Roman Polanski, avec Roman Polanski lui-même. Donc, c'est l'histoire d'un professeur Abronou et son fidèle assistant Alfred, déjà. Mm-hmm. On a déjà un Alfred assistant de... Le monsieur avec une cape.
Le Batman.
Voilà.
Goal de Brasil.
Ah oui, c'est vrai.
Donc, ils viennent traquer un vampire au fin fond de la Transylvanie. La jolie fille de l'aubergiste chez qui ils échouent est enlevée. C'est en suivant sa trace que les deux compères aboutissent au château du comte von Krolok qui prépare le bal annuel des vampires. Le rire et la peur parviennent à s'amalgamer et à se nourrir mutuellement. Je trouve que cette comédie amère, les thèmes majeurs du cinéma fantastique que sont l'amour et l'épouvante s'entremêlent constamment.
Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que c'est
une comédie.
C'est
un dernier petit mot sur l'interview de Polanski en 1969. Tu me fais peur. Les gens aiment avoir peur sans danger. La peur est assez proche de l'humour qui consiste justement à rire de la mésaventure de quelqu'un ou de sa propre mésaventure. Et toute peur qui n'est pas accompagnée d'un véritable danger doit vous faire rire une fois passée. C'était ce que disait Polanski lors du tournage du Bal des Vampires. Moi, je tiens encore la parole, Gwen, désolé.
Ouais, vas-y.
C'est juste pour citer encore un film, puisqu'on est dans l'art et essai avec notre cinéma, Morse, avec le titre en entier, ça donne Let the Right One In, de 2009. C'est un film suédois de Thomas Alfredson, qu'il a eu un prix au Festival de Gérardmer pour le fantastique. Ça raconte une histoire dans une ambiance qui est toute particulière, puisque sur fond d'une amitié naissante de deux enfants, Morse nous propose une enfant vampirique, fragile, esselée, assumant son état. Elle mélange à la fois la cruauté, l'implacabilité du vampire qu'elle est et les doutes, les hésitations d'une enfant de 12 ans, se cherchant elle aussi une place, un ami. Le rythme du film est lent, mais je vous le conseille parce que c'est quand même un très très bon film de vampire avec des enfants et je trouve que c'est très bien filmé.
Vous voulez aussi parler Blade, parce que avec Wesley Snipes, c'est pas un gros film, il y a eu trois suites et je crois qu'il y a un quatrième qui va sortir cette année, soit l'année prochaine. Ouais. Puis il y avait aussi Une nuit en enfer de Roberto Rodriguez avec George Clooney et Quentin Tarantino qui avait écrit le scénario. C'est l'histoire de deux frères qui ont des êtres assez violents et qui se retrouvent finalement confrontés à des vampires.
Vaut mieux rester au 1, je crois.
Tout à fait, oui. Il y a Ultraviolet de Kurt Wimmer avec Mila Jovovich. C'est une histoire sur une maladie, un virus, et qui crée des hémophages. C'est-à-dire, ça ressemble un peu à des vampires, puisqu'ils ont les dents pointues et une histoire quand même de sang. Donc, c'est un film très esthétique. Alors, par contre, le scénario est bateau. Hein. Évidemment, on voit la plastique de Mila Jovovich dans ses habituels combats à la Resident Evil. Il y a le film I Am a Legend de Francis Lawrence avec Will Smith. Parce qu'en fait, le héros de Richard Matheson, l'écrivain, Richard Neville, devient dans une nouvelle société de vampires un marginal qu'il faut éliminer. Alors, ça se voit plus dans le roman que dans le film, mais effectivement, c'est quand même une histoire de vampire. Alors que là, finalement, c'est l'être humain qui reste tout seul. Hein. C'est un film où Will Smith apparaît à 75% dans l'écran. Et puis, surtout, ce que je voulais rappeler, parce que tu as fait parler des films d'art et d'essai, le film La Comtesse de Julie Delpy avec Daniel Brühl, qui jouait dans Goodbye Lenin, et qui est un film superbe sur cette fameuse comtesse Ezerbeth, et qui est un film assez, je trouve, assez réaliste, très bien fait, et qui lui penche plus, pas tellement pour le côté sadique ou sanguinaire de cette héroïne, mais plus sur ce côté d'essayer de retrouver cette beauté qu'elle avait étant jeune pour l'amour de ce fameux Daniel Brühl, le comte Tuzo, dont le père Grégory Tuzo sera le William Hurt sera le pire adversaire de cette comtesse durant son procès.
C'est cela. Tu n'es rien d'autre qu'un mythe. Les Grecs avaient créé des dieux pour tout, parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi la mer, pourquoi l'amour, pourquoi la mort. Nous, nous t'avons créé pour apaiser et nourrir nos peurs et notre ignorance. Car nous avons tant de questions et si peu de réponses. Je me suis servi de toi et des prières pour me pardonner mes horribles péchés. Être mis religieusement en terre ou servir de pitance aux loups revient au même. L'eau bénite n'est que de l'eau sale. Pourquoi ai-je si peur de mourir ? Parce que je ne crois pas en toi, ni en l'éternité de l'âme. Une fois morte, je pourrirai, et il ne restera rien de moi. L'amour est le poignard qui m'a frappé dans le dos. Si tu n'es pas un mythe, absous-moi de mes péchés et donne-moi du sang pour que je garde ma jeunesse. Merci, Seigneur.
Et effectivement, il est très très bien fait. C'est Julie Delpy qui fait elle-même le rôle de cette comtesse. Et il est vraiment extraordinaire. Ça met une ambiance très, très, sans faire de péjoration, très très roumaine, toi. Très D'accord. transylvanienne. Okay. Voilà, tu voulais dire ?
Oui, sinon pour citer encore quelques titres comme ça, là au hasard, je ne sais pas si bien réussi. Après, il y a L'Assistant du Vampire qui est sorti en 2009. Là. Après, on a celui qu'on a parlé avec, justement avec Tim Burton, Dark Shadows.
Voilà, tout à fait, oui, c'est vrai aussi, oui, effectivement. Très, très bien. Mais ça, comme on en avait déjà parlé dans une autre émission.
Il y a Solomon Kane aussi, voilà, encore un chasseur. Quoi.
Voilà, tout à fait. Puis il y a le fameux film qui va bientôt sortir, justement, qui était un peu lié avec Tim Burton, le fameux Abraham Lincoln, chasseur de vampires.
J'en parlerai tout à l'heure, parce que j'ai différentes sorties sur les films de vampires. Okay. Il y avait aussi La Ligue des Gentlemen Extraordinaires.
Voilà, puisqu'on a le personnage de Mina. Justement, je voulais, et tu fais bien de me de m'en parler. C'est-à-dire que effectivement, dans le film, elle a un rôle assez mineur, alors que dans la bande dessinée de Moore, elle a un rôle carrément prépondérant, puisque c'est elle qui est la chef de la bande et pas Alan Quaterman.
Un dernier petit, c'est un petit film sur pour nos amis Coton-Tige. Je sais pas si tu as lu, non, il s'appelle Suck. Ça dit rien, ce film ?
Du tout.
Je sais plus par qui il est fait, j'ai juste vu comme ça, là, quand je regardais, quand je préparais l'émission. Il a été fait en 2010. Et dedans, on retrouve Iggy Pop, Alice Cooper. Et ils sont chargés, tu sais, de mettre un groupe. Et ce groupe, tu vois, il va devenir. Elle va être mordue par un vampire. Enfin bon, il y a aussi une histoire de vampire avec. Voilà, et c'est sur le rock'n'roll, donc.
Voilà, c'est ça, c'est un peu.
Je dois faire un petit coucou.
Un petit coucou à Coton-Tige, mais ensanglanté cette fois-ci.
Oui.
Donc voilà, donc moi je voulais rapprocher un petit peu de la troisième partie de l'émission dans des films comme Underworld, le 1, le 2, le 3, le
Bienvenue
4.
Bienvenue dans les sagas.
Voilà, c'est ça, de Len Wiseman, qui est en fait quelque part le fiancé de Kate Beckinsale. Donc merci mon chéri pour me faire des films à ma gloire.
Deux familles damnées et immortelles, l'une avide de pouvoir et de richesse.
La chaîne n'a jamais été brisée, pas une fois en 14 siècles.
L'autre, animé par la vengeance.
Bientôt, nous vaincrons les vampires sur leur territoire.
Vampires !
Et c'est le combat des Lycans, qui est représenté par le personnage de Lucian, contre celui des vampires, avec le personnage de Victor, d'Amalia, de Marcus. Et tout vient de la fameuse légende d'Alexander Corvinus, qui avait trois fils, dont un, Marcus, a été mordu par une chauve-souris et qui est donc devenu un vampire, et de William, qui a été mordu par un loup et qui est devenu un lycan. Et le troisième fils, lui, a continué d'être un homme. Et c'est grâce à ce descendant d'Alexander Corvinus, donc le héros un peu quelque part indirectement du 1, qu'on va faire un croisement entre les loups-garous et les vampires.
Donc je dirais que c'est un peu de Matrix, les effets spéciaux.
Ah oui, tout à fait.
Un peu de Blade.
Oui.
Bon,
pas mal
d'imageries gothiques, et c'est la recette de ce plat assez boursouflé, mais plutôt attrayant, si l'on s'en tient au décor ruisselant, au cache-cache chorégraphique et à l'héroïne aux cheveux de G. Quoi.
Ouais. Oui, mais disons que ça, c'est purement très, très gothique. Là, si on aime les gens qui sont gainés,
c'est comme Blade,
très
quoi. Si tu aimes la blast, c'était...
Voilà, mais c'est ça, oui, effectivement. Après, ça casse pas de quatre pattes à un canard. Hein. Dans Van Helsing, le seul personne qui peut abattre le comte Dracula, c'est un loup-garou. Et on retrouvera aussi quelque part ça dans les fameux... Chers à toutes les jeunes filles...
Twilight.
Voilà, les fameuses Twilight. Et leur canard dans les coins.
Si je vous dis coin-coin, vous me dites ?
Coin-coin WC, bien sûr.
Oh, j'aimerais pas être un microbe dans vos chiottes.
Les légendes des Twilight, puisque finalement, les garants de la sécurité des hommes, eh ben, c'est des loups-garous qui sont représentés par le personnage de Jacob Black. Edward Cullen étant le vampire et Bella Swan est forcément la superbe héroïne. C'est venu d'un livre, enfin de quatre livres pour être plus explicite, qui a été écrit par Stephanie Meyers et dont on va tourner cinq films puisque c'est le fameux 4-1-4-2 cher à Harry Potter puisqu'il y avait le 7-1 et le 7-2 et qui a été donc divisé en quatre parties, la fascination du vampire, la tentation de devenir comme lui, l'hésitation à passer et en fait finalement la révélation. Et en fait tout cela démontre effectivement ce côté où de plus en plus et bien maintenant c'est vrai qu'on a tendance à imbriquer les films de vampires et de loups-garous ensemble, voilà quoi.
Oui, mais là c'est quand même la réalisatrice joue astucieusement avec les codes du vampirisme et du film d'ado, quoi, délaissant l'horreur pour raconter l'histoire d'une amour impossible.
Oui, mais ça, bien sûr, tout ce qui en découle de ce que j'appellerais de Harry Potter, de chez G. Lewis, de Narnia.
Après, je dis pas, mais
de Seigneur des Anneaux,
c'est bien fait quand même.
Oui, non, mais il y a toute une littérature qui a été créée pour les adolescents, c'est-à-dire qu'on prend les codes un peu adultes, mais on les infantilise, c'est très vu dans Narnia d'ailleurs, et effectivement, maintenant on en fait des films, puisque le cinéma hollywoodien adore prendre ce genre de bouquins et sait qu'effectivement les ados sont aficionados, et puis on a vu ça un peu dans le Hunger Games aussi. Voilà,
je me demande si dans l'épisode 4, là, le Twilight 4, si c'est pas devenu un...
le Twilight... Twilight.
Twilight, Twilight, comme tu veux.
Moi, ça fait trop pexitron, ton truc.
Ouais. Je me demande, c'est pas devenu un peu puritain, quoi. Signature, je dirais que c'est même la. Voir, c'est pas l'auteur, la Stephanie Meyer, qui a un peu été envahissant sur le, sur le scénario.
Moi, je te dirais, c'est
parce qu'on trouve quand même des vampires, je trouve, allégés, décaféinés, voire émasculés. Quoi.
Et c'est-à-dire qu'effectivement, on veut bien d'une histoire impossible entre une vampire et un être humain, on veut bien qu'il y ait du loup-garou dedans, mais attention. Parce que, et c'est là aussi ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne met pas trop de sang, puisqu'à partir d'une certaine dose de sang, ou même de sang qui apparaît trop à l'écran, c'est interdit aux moins de 16 ans. Et donc forcément, dans ce genre de film, eh ben, tu ne peux pas le mettre, puisque c'est quand même ton public. Quoi.
Quand on voit un vampire faisant une partie de Scrabble avec la jeune demoiselle, ça m'a fait doucement rire. Ça. Non, comme tu dis, ça s'adresse à un public
Oui, mais
ado.
Non, mais voilà, tout à fait ado, parce que forcément, on a été bouleversé par le Dracula de Francis Ford Coppola, par celui de Night Jordan, donc Entretien avec un vampire. Et effectivement, on a essayé toujours cette histoire d'amour, parce que on veut essayer, et là, on en avait parlé avec Anna dans la première émission, c'est essayer de battre l'amour même sur le terrain de la mort. C'est là la fameuse toujours avantage des vampires vis-à-vis des loups-garous, parce que là je voudrais quand même mettre un hola, parce que effectivement
hola
oui, c'est d'ailleurs dans cette période de l'euro les hola ça marche bien. C'est-à-dire que effectivement il y a une histoire d'amour entre un humain et un vampire. Par contre, moi ce que j'aimerais bien savoir c'est, et là j'en avais déjà parlé pour l'émission sur les super-héros, on a des vampires femmes puisqu'on voit dans les Underworld. Par contre, les loups-garous, vous m'en citez ?
Il y en a beaucoup moins, hein, comme
ouais,
d'habitude.
Ouais, voilà, c'est ça. Non, parce que je vois ça, j'aimerais bien le savoir. Il y a dans le fameux Wolf.
Si, t'as un Wolf Girl, ça s'appelle. Quoi. Voilà, en 2001, il a été fait par les Canadiens.
Non, mais ça, après moi,
c'est pas un film qui a dû marquer.
Voilà, tout à fait. Non, mais moi, je veux dire vraiment dans cette histoire que ce soit fort. Parce que dans le Wolf, on le voit un peu avec Michel Pfeiffer et Jack Nicholson. Et là, dans les Underworld, quand tu vas dans les caves où il n'y a que des loups-garous, il n'y a que des mecs. Hein. Bon, des gros poilus, des.
Ah, tu veux dire pour les lycans ?
Mais voilà, pour les lycans, il n'y a pas une femme. Alors, je ne sais pas comment ils se reproduisent, apparemment, ils doivent mordre.
Pour conclure, on peut dire qu'on trouve à peu près 200 films dans lesquels le roi vampire Dracula tient le rôle principal. Je dirais que ça a été une des figures cinématographiques les plus populaires. Il a été vendu à toutes les sauces, qu'il soit muet dans, en 1922, ouais, là, dans celui que t'as dit, Nosferatu,
Nosferatu, ouais, oui,
qui soit muet, sanguillonnant, homosexuel, métamorphe, traditionnel, séduisant, drôle, gothique, violent, séduisant, je l'ai déjà dit, non ?
Voilà, c'est
oui,
ça, ouais.
Parce qu'il y a un film qui a été sorti, je crois que c'était Vampire, Lesbien,
oui, Killer.
Killer.
Voilà. Et puis, il y avait tout ce côté aussi très sexuel, mais ça, tu en avais parlé avec le héros, c'est Thanatos,
oui,
et il y a beaucoup de films qui ont été un peu limite, un petit peu, un petit côté de Marc Dorcel, moi, on comprend qui peut, mais voilà, très cucu la praline.
Ah.
Mais sans la praline. Donc voilà. Donc, et puis je voulais aussi rappeler quand même la phrase qu'on entend souvent dans le film de Dracula de Francis Ford Coppola et que Renfield ne cesse de répéter : le sang, c'est la vie. Donc voilà, moi ce serait ma conclusion : le sang,
oui,
c'est la vie.
D'ailleurs, le 14 juin, il y a la journée mondiale du don du sang.
Voilà, c'est ça. Donc, donnez votre sang.
Je vais vous parler maintenant des vampires à sortir. Les prochains films.
Ah, que à minuit et que...
Alors là, je vais galérer. Alors, donc, comme tu t'as dit tout à l'heure, tu l'as signalé très justement tout à l'heure, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu l'as... Oula ! Abraham Lincoln, Vampire Hunter, qui sort en 2012 de... Alors là, je vais
galérer.
Beckman Betov.
Voilà, c'est ça, le fameux russe qui avait fait Die Watch et Night Watch.
Oui, je vois.
Et Wanted.
C'est bien, mon petit. Le film est proche de la réalité historique, seul petit biais, les parents du président, bien sûr, le beurre, du président assassiné par un vampire. Donc c'est un film qui est justement, on en a parlé dans l'émission sur Tim Burton, parce qu'il a été produit par Tim Burton. Vous verrez donc Monsieur Abraham Lincoln, un président pas comme les autres.
Le changement,
mais
c'est
maintenant.
Mais je
pense qu'il doit tenir la route, parce que si quand même Tim Burton le produit... Ça doit
non,
quand même pas être un as.
Oui, mais si je me rappelle bien, c'est une bande dessinée, donc enfin un comics. Hein. Donc,
encore.
Oui. Et donc c'est un truc qui est quand même connu. Et il y a aussi ce qu'il faut rajouter, mais ça on a oublié d'en parler, mais là on est au cinéma, c'est qu'il y a aussi beaucoup de séries qui parlent des vampires aussi. La fameuse Buffy. Hein, chasseuse de vampires.
Oui, ben ils vont en faire un film qui sort en 2012.
Voilà.
En fait, il y a déjà eu un film à l'époque.
Oui, tout à fait. Oui.
Ils en ressortent un. Il y a aussi un film d'animation qui s'appelle Hotel Transylvania, qui sort en octobre 2012, fait par Gwendy Tartakovsky.
C'est pas moi. Hein.
Oui, c'est un film d'animation donc de Sony Pictures, Dracula.
Ah ouais.
Oui, le synopsis, ça a l'air d'être très drôle, je pense. Dracula, la momie, le loup-garou, enfin tous ces héros qui ont pu
voilà,
lui faire
ouais,
peur, se retrouvent dépassés par la technologie du 21e siècle. Et je pense que toute la trame se tient autour de ça et
voilà,
ça
oui,
vaut peut-être le coup.
Avec les ghouls qui chantent la fameuse chanson « Quoi ma ghoul ? Qu'est-ce qu'elle a ma ghoul ?» I feel good et « Ghoul Morning Vietnam
oui. !» Et donc aussi, comme tu parlais tout à l'heure, le Twilight 4, seconde partie, qui sort en novembre 2012.
Oh, tu vas mourir avec ton Twilight.
Je vais parler de Lastwood, qui sort en 2012 de Simon Hunter. C'est des humains qui subissent l'attaque de zombies. Tu vois encore le mélange zombies-vampires. Et là, ils sont protégés par les vampires qui ont besoin de sang des humains pour survivre. Enfin, à la base, c'est un roman graphique, ça.
Finalement, c'est un film sur les patous, quoi. C'est les patous qui protègent leur troupeau.
Oui,
aux agresseurs
oui,
des loups.
Oui, exactement, on peut dire ça. Après, il y a Stalker qui s'appelle. Qui sort en 2012 aussi,
ah ouais,
de Park Chan-wook. J'espère que ce n'est pas un remake de Dracula de Coppola, parce que dedans, il y a Mia Wasikowska et il y a Nicole Kidman aussi. Et il s'est inspiré d'après le roman de Stalker.
Oui, mais ça, de toute façon, comme
donc,
les
je
trois
pense
que sont...
Je peut-être une nouvelle version,
sont,
ouais,
oui, non, soit, voilà, c'est
soit
ça,
extensible.
J'ai...
Donc après, il y a aussi à peu près une quinzaine de films, donc la date de sortie n'est pas mentionnée, ou alors c'est en projet, ou il y a des fois, tu sais, ce qu'ils appellent des scénarios qui sont dans la dark list. C'est-à-dire qu'ils sont le scénario est tellement bon, mais ils savent pas par quel bout le prendre.
Voilà, c'est ça.
Pour pas justement
oui, non, mais...
dénaturer le scénario.
Oui, et puis bon, après, il y a aussi ce qu'on appelle ces films où on ne sait pas qui c'est qui va le mettre en œuvre. On décide que c'est lui, et puis finalement, ça va pas
donc,
entre les comédiens et tout. Donc.
Dans cette lignée-là, on va dire bah, justement, il y a La Lignée de Guillermo del Toro.
Voilà, très bon.
On attend aussi. Et il y a The Night Stalker avec Johnny Depp dedans.
Ah ouais. Ah ouais.
Donc ça, je ne sais pas tant si ça sort, mais ça sort aussi. Et enfin, pour finir, il y a L'Affaire du siècle de Jean-Jacques Benex.
Oula, carrément.
Ouais, c'est un projet depuis les années 80. Ils ont déjà sorti le synopsis du film en BD.
D'accord.
Et j'espère que le film va enfin sortir, parce que depuis le temps.
Ouais, moi j'aime bien ce qu'il fait, après voilà.
Donc voilà. Voilà pour
un réalisateur à polémique, mais
les films qui vous attendent, et il y en a encore bien d'autres, je pense.
Tout à fait. Ben là, on va passer à la séquence non pas du spectateur, mais du pestel. Bon voilà, alors
qu'as-tu allé voir? Qu'as-tu allé voir Gwen au cinéma? Qu'as-tu voir toi?
moyen à voir de rousse et d'oeil.
Ah
non, de rousse et de rouille.
Ah, je préfère.
Donc voilà, de Jacques Audiard, et qui a été, enfin, pour ma part, un très bon moment, effectivement.
Alors, par contre, c'est pas un très bon film, c'est un très bon moment.
Oh non, non, mais
comment
non,
faut-il c'est... le comprendre?
Non, non, ça a été un très bon film. Moi, ça a été une surprise. Bon, je m'attendais quand même à plus du bon que du mauvais. J'ai adoré ça, le film, dès les premières minutes. Par contre, j'ai été, il est vrai, surpris par le fait qu'on parle plus du personnage masculin que du personnage féminin. Parce que,
de Marion Cotillard.
Voilà, de Marion Cotillard. Parce que dans la bande-annonce, c'est quand même bien ciblé sur elle, quoi. Alors que oui. Le film est quand même plus sur lui, sa violence, son enfant. Et elle je dirais pas
film,
qu'elle n'est pas accessoire, mais voilà. Mais voilà, elle n'est pas centrale, quoi. Donc moi ça m'avait surpris, mais par contre c'est
plus un film sur la boxe.
Moi je dis non, ça,
sur les combats de rue illégaux.
Non, c'est
un film sur la belle et la brute.
Oui. Sur le syndrome de l'enfant secoué aussi d'ailleurs. D'ailleurs un
coupé.
Petit non moi j'ai, franchement je te dis honnêtement,
non,
j'ai adoré dès le premier moment du film, et malgré sa longueur, franchement je serais bien resté une demi-heure de plus.
C'est vrai?
Ouais,
mais il y avait plus rien après.
Non mais que le film dure, forcément,
bon.
À un moment, il arrive la fin.
Oui, tu sens
mais
que...
J'étais bien dedans, quoi.
Mais tu sens qu'à partir du moment où ils vont... On va pas raconter le film, mais à partir du moment où ils sont arrivés en Alsace, ou je sais plus où il était, là où il y a la neige, là,
ouais.
Et ben là, tu as l'impression qu'il accélère, quoi. Le réalisateur accélère le...
Oui,
tu
mais
sens
ça,
la
c'est
fin, quoi.
Ça, c'est un peu souvent un peu dommageable. Mais ça, après, est-ce que c'est une histoire d'argent? Est-ce que c'est une histoire de temps vis-à-vis de la sortie qui fait qu'on se lance dans
de
des
scénario.
Trucs et après, au bout d'un moment, on est obligé d'un
non,
peu
mais
d'accélérer,
c'est,
quoi.
Il est très bien.
Non, mais
on
moi,
recommande quand même.
Voilà,
moi, j'ai vu The Avenger et on en prend plein les yeux. C'est un très bon film aussi.
Ah ouais, tout à fait. Moi, là, je confirme avec Hugo. Ouais, c'est un très bon film. Beaucoup d'humour,
ouais.
D'effets spéciaux.
Il y a que moi qui rigolais dans la salle d'heure. J'ai pas compris.
Non, mais moi, le personnage de Hulk est mis de belle manière.
C'est équivalent. Et j'adore votre façon de perdre le contrôle en devenant un monstre vert ultra-violent. Merci.
Avec sa confrontation avec Loki est extraordinaire. Voilà.
Oui, surtout quand il... Mais je suis qui? Je suis un dieu.
Bam, 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 bam. Ah oui. Bon, c'est là, effectivement, c'est pas très visuel. Mais non, et puis ce personnage aussi, qui est quand même très charismatique, d'Iron Man, et qui bave, mais j'arrive pas à trouver un autre mot, mais carrément qui découle sur toute cette belle bande de potes.
Bah,
hein,
c'est moi, jeu. Hein.
C'est-à-dire que c'est un peu le
Il le dit un moment, hein, vous êtes qui? Vous battez,
je suis milliardaire.
Voilà.
Je fais cavalier seul. Tu joues les héros avec ton armure. Mais sans elle, tu es quoi? Ingénieur, milliardaire, playboy, philanthrope.
Et t'as l'impression que Captain America, non, il joue un peu le rôle de l'ONU, quoi.
Oui, voilà.
Hein?
C'est ça. Oui, mais c'est un peu son rôle. Ouais. C'est le rôle de l'ONU, parce qu'effectivement, bah, il a toujours eu, d'ailleurs, même dans les comics, il a toujours eu ce rôle de moraliste.
Donc nous allons parler maintenant de Men in Black 3.
Oui.
De Barry Sommerfeld, avec Will Smith.
Voilà.
Et... Emma Thompson, Tommy Lee Jones et Josh Brolin.
Ah,
c'est un ami à toi, non?
Oui, tout à fait. Oui. D'ailleurs, il te passe le bonjour.
Merci.
Notre mission consiste à contrôler les activités extraterrestres sur Terre.
Flacco, tu sais que t'as rien à faire au nord de Canal Street. Qui c'est, Flacco?
Hey, calmos, le rebelle. C'est moi qui veulent, pas toi.
C'est du délire, pas vrai? Qui débarque, qui cause au mur, le mur qui leur répond. Ouais, c'est flippant. Mais te prends pas la tête avec ça.
Lorsque la vie de K et le destin de la Terre sont menacés, l'agent G décide de remonter le temps.
Maintenant, il n'y a plus qu'à faire un petit saut.
Tu veux que je saute?
Un saut dans le temps.
Pour mettre les choses en ordre, il va alors découvrir qu'il existe certains secrets de l'univers que K ne lui a jamais révélés.
Il y a des choses qu'il ne vaut mieux pas que tu saches.
C'est pas le bobard que tu m'as servi le jour où tu m'as recruté.
Je t'avais promis les secrets de l'univers, rien de plus.
Alors, c'est quoi les autres secrets?
Je pense que c'est une suite qui manque pas d'humour. Ça reste dans la lignée des MIB.
Et d'ailleurs, si je me souviens bien, c'est le même réalisateur pour les trois. Hein.
Oui, et le coup de jeune, donc je pense, fonctionne très bien. Et bon, la saga ressort ragaillardie.
Ouais, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi Barry, le réalisateur, a aussi réalisé La Famille Addams, le 1, le 2. et le Wild Wild West aussi. Donc,
d'accord,
voilà.
C'est une famille, quoi.
Non, mais disons que voilà, il y a vraiment un humour dans ce film, quoi.
Puis disons que pour un numéro 3, je pense qu'on en redemande. Quoi.
Et alors là, petit scoop après, dans le.
C'est vrai, un scoop.
Oui, tout à fait. Il y a un scoop dans le film, c'est qu'on verra Tim Burton en Alien,
ah,
Justin Bieber en Alien et Lady Gaga en mère des aliens, parce que c'est un petit truc de justement de Barry d'installer des personnages connus. Il y a vu.
Mais on les reconnaît facilement, non?
Bah, justement, moi j'ai pas les images, hein, mais on les voit pas dans la bande annonce. Mais il y a déjà eu la présence de Steven Spielberg, de Stallone, de Danny DeVito, de George Lucas dans les précédents épisodes. Donc voilà. Donc
je pense que ça joue la carte du divertissement, la science-fiction ici.
Bah là à fond, ouais.
Et avec son lot d'anachronismes et ses gags afférents, quoi.
Oui, mais voilà. C'est... Et puis, ce truc de se moquer d'un peu de ces gens qui sont un peu parano.
Oui, faut pas vous attendre à un film sérieux.
Ah oui, là, ceux qui sont partis pour un film d'art et d'essai. Là.
Non. Bah justement, après, on va sur un carnet de voyage de Monsieur Depardon et voilà. Nougaret. Enfin, Madame Nougaret.
Ouais.
Pas Nougaro, hein.
Non.
Nougaret. C'est un journal, un voyage dans le temps. Il photographie la France. Elle retrouve des bouts de films inédits qu'il garde précieusement. Ses débuts à la caméra, ses reportages autour du monde, des bribes de leur mémoire, de notre histoire.
Voilà. Oh, mais ça a l'air d'être un très beau film. J'avais vu la...
C'est un documentaire, voilà. Gwen. Hein.
Ouais, mais...
Ah là 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 là.
Oui, d'accord. Mais en même temps, moi, je trouve que c'est toujours un peu à la frontière des deux. Hein. C'est pas vraiment... Je dirais pas que c'est un documentaire assumé, parce que, je veux dire, ça parle de deux personnes qui existent. Et voilà, c'est pas un documentaire comme Mondo Vino, quoi.
Je pense que c'est une méditation profonde et intime sur l'image. C'est un journal extime, un découpage d'informations, bref de stories qui donnent des nouvelles du monde, mises de rien depuis plus de 50 ans.
Voilà, tout
non,
à fait.
Mine ouais. de rien, plutôt. Ouais, oui, mise de rien, c'est pas français.
C'est ça, via ces photos et ces images, et ben, effectivement, on revisite... L'histoire du monde, quoi.
Oui, c'est un sommet d'intelligence, de pertinence et d'émotion.
Ouais, tout...
Alors, pour finir, le dernier,
voilà,
AV,
voilà,
qui n'est pas un film de Romain. Hein.
Non. Tout à fait, qui est un road movie bulgare.
Oui,
donc c'est pas un, c'est
de Bojanov. Pas,
voilà, de Konstantin Bojanov, et qui n'est donc pas un film sur le yaourt. Hein.
Ah bon?
Non, du tout. Et donc, en fait, ça raconte l'histoire de Kamen, un étudiant aux Beaux-Arts qui apprend la mort de son ami Victor, hein, pas le vampire, hein, un ami d'enfance, et qui décide aussitôt de partir à Rousse, c'est un village au nord de la Bulgarie. Et alors qu'il fait du stop, sans succès, il y a une fille qui surgit à ses côtés et qui fait des signes à côté de lui, et les voilà embarqués dans une aventure. Il utilise le mensonge à bon escient, et Kamen veut se débarrasser de cette fille, mais Avelina, dite Ave, fugueuse, en révolte avec sa famille, le col, indocile, insolente, agressive et railleuse.
Oui, c'est un film qui distille une magie délicate qui en fera pas regretter au spectateur d'avoir pris la route avec lui. Après, je pense que c'est juste un road movie bulgare où une jeune mytho embarque un artiste dans ses délires.
Dégage. Oh, comme le résumé, ça fait mal. Non, mais moi, par contre, tu vois, celui-là, il me plairait bien, tu vois.
Après, c'est vrai.
Oui, parce
t'aimes
que
bien le yaourt.
Oui, tout à fait. Quand on m'a parlé la première fois de ce film, qu'on m'a fait le synopsis, moi, j'ai tout de suite pensé à la fameuse chanson.
C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui.
Ils font du stop, ils vont aller dans ce village.
Non, mais je crois que même lui, il y a que lui qui fait du stop, parce qu'après c'est elle qui s'incruste. Hein.
Ouais, non, mais elle s'incruste et tout. Mais
puis elle raconte tout et n'importe quoi, et
voilà,
il se retrouve en fait mêlé avec elle. Mais après, je pense qu'ils doivent craquer, et puis voilà quoi.
Mais en fait,
ça sent l'amour,
en fait,
non
oui, quelque part, je pense qu'il y a une histoire d'amour. Alors, assumé, pas assumé, coucherie, pas coucherie, là, on laissera le spectateur.
Là est la question.
On laissera le spectateur découvrir, mais je sais qu'à un moment, ils arrivent. Enfin bon, non, je ne vais pas raconter la suite.
D'accord.
Mais voilà, mais c'est vrai que Carmen découvrira avec Ave qu'elle en sait long sur la douleur, sur la solitude et sur le deuil. Et effectivement, et en plus, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est le premier long métrage de Konstantin Bojanov. Donc voilà, c'est aussi peut-être un réalisateur à découvrir et attendre le prochain film pour voir s'il réussit la transformation, comme on dirait en rugby.
Et le film donc peut faire confiance à son duo de routards bluffants naturels. Bah, la semaine prochaine, c'est surprise.
C'est surprise, voilà.
C'est la dernière d'Anaël, en espérant qu'elle va nous revenir toute blanche.
Parce que bon, entre Transylvanie et Palombie, son cœur balance. Et comme on dit en Palombie,
Palombe,
Palombien.
Ciao. Au revoir et merci.
Mais j'ai levé le doigt, monsieur. J'ai levé le doigt, monsieur. Je voulais faire pipi. Force.
Et si c'était une nuit comme on n'en connut pas depuis 100 000 nuits. Une nuit de fer, une nuit de sang, une nuit. Un chien hurle. Regardez bien Jean de d'enfer, regardez-le. Sous son manteau de bronze vert, le lion tremble. Les hommes avaient perdu le goût de vivre et se foutaient de tout. Leur mère, leur frangin, leur nana, pour eux c'était que du cinéma. Le ciel redevenait sauvage, le béton bouffait le paysage d'alors. Des loups, les loups étaient loin de Paris, en Croatie, en Germanie. Les loups étaient loin de Paris. J'aimais ton rire, charmante Elvire. Les loups étaient loin de Paris. Mais ça fait ses 50 lieues dans une nuit à queue leu leu. Dès que ça flaire, une ripaille de mort sur un champ de bataille. Dès que la peur hante les rues, les loups s'en viennent la nuit venue. Alors, les loups ont regardé vers Paris, de Croatie, de Germanie. Les loups ont regardé vers Paris. Oh, tu peux rire, charmante Elvire. Les loups regardent vers Paris. Et voilà qu'il fit un rude hiver, sans congestion en fait d'hiver. Volets clos, on claquait des dents, même dans les beaux arrondissements. Et personne n'osait plus le soir affronter la neige des boulevards. Alors, de loups, oh, 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 de loups sont entrés dans Paris, l'un par ici, l'autre par Ivry. De loups sont entrés dans Paris, oh, tu peux rire, charmante Elvire. De loups sont entrés dans Paris. Le premier n'avait plus qu'un œil, c'était un vieux mâle de Crivoy. Il installa ses 10 femelles dans le maigre square de Grenelle. Et nourrit ses 200 petits avec les enfants de Passy. Alors, sans loup, oh, 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 sans loup sont entrés dans Paris. Soit par ici, soit par Ivry. Sans loup sont entrés dans Paris. Cessez de rire, charmante Elvire. Sans loup sont entrés dans Paris. Le deuxième n'avait que 3 pattes. C'était un loup gris des Carpates qu'on appelait Carême Prenant. Il fit faire grâce ses enfants et leur offrit 6 ministères. Et tous les gardiens des fourrières. Alors, loup, oh, oh, les loups ont envahi Paris. Soit par ici, soit par Ivry. Les loups ont envahi Paris. Cessez de rire, charmante Elvire. Les loups ont envahi. Attiré par l'odeur du sang, il en vint des 1000 et des 100 faire carousse, liesse et bonbons dans ce foutu pays de France. Jusqu'à ce que les hommes aient retrouvé l'amour et la fraternité. Et alors, loup, oh, Paris, soit paressé, soit arrivé. Les loups sont sortis de Paris, tu peux sourire, charmante Elvire. Les loups sont sortis de Paris, j'aime ton rire, charmante Elvire. Les loups sont sortis de Paris.